c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est sidérant, mais c'est pourtant vrai. Depuis ma naissance, je suis entourée de plastique. Mes jouets, mes biberons, ma salle de bain, ma cuisine, mes vêtements. Depuis quelques décennies déjà, je tairai mon âge pour ne pas perdre nos jeunes auditeurs. Depuis quelques décennies donc, je respire et je touche du plastique plusieurs fois par jour. Et vous, combien de fois avez-vous été en contact avec du plastique depuis ce matin? Posez-vous deux secondes pour y penser. Et oui, c'est effrayant. Et plus largement, l'océan, les sols, les fleuves et les vents, les microparticules de plastique sont partout. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, comme va vous le démontrer notre invité qui a bien enquêté.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Dorothée Moisan.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, vous venez de publier Les Plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent chez Kero. Alors c'est quoi un plastiqueur?
Alors un plastiqueur, c'est un petit néologisme que je me suis permis parce que tout simplement, alors certains se souviennent de ces plastiqueurs corses qui ont fait beaucoup parler d'eux en France, c'est-à-dire de ces gens qui ont posé quelques petites bombes dans des paillotes en Corse et qu'on avait tendance à appeler des plastiqueurs parce qu'on mettait un pain de plastique qu'on faisait exploser. Alors c'est pas vraiment le même plastique dont on parle, mais les plastiqueurs, c'est cette industrie qui va finalement faire exploser la planète, l'environnement, mais aussi la santé humaine, à coups de matière plastique.
Bah, c'est vrai que votre livre est quand même majoritairement à charge et on va comprendre pourquoi dans cette émission. Par exemple, en ce moment, les plastiqueurs s'en donnent à cœur joie. Start up the phonograph.
Masque, gants ou encore bouteilles pour gel hydroalcoolique, le plastique profite de la crise sanitaire pour faire son grand retour.
Aux États-Unis, en pleine crise du Covid, les lobbyistes du plastique sont en train de faire reculer les écolos.
Il y a les mêmes déchets qu'avant et en plus de ça, on va retrouver les masques et les gants. Et ces petits plastiques de suremballage.
Richard Cheng a quitté son confinement pour se ravitailler. Dans ce supermarché où il fait ses achats, les sacs plastiques jetables avaient ainsi disparu. Désormais, ils sont bien de retour à la caisse. Et comme c'est l'Amérique, le plus, le mieux.
En tant que directeur de l'EUPC, la Confédération européenne de la plasturgie, on m'a demandé de clarifier pourquoi nous avons décidé d'écrire une lettre ouverte à la Commission européenne concernant le report de la mise en œuvre de la directive sur les plastiques à usage unique. La raison est assez simple. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 demande aux industries et aux autorités une pleine attention pour combattre cette crise. La directive sur les plastiques à usage unique a été un débat très controversé et qui encore aujourd'hui a du mal à définir ce qu'est un plastique à usage unique.
On peut vraiment espérer que les lobbies ne réussiront pas leur tour de force pour revenir en arrière et que le gouvernement sera ferme sur ses décisions et que les consommateurs comme les industriels iront dans le même sens, c'est-à-dire celui de la réutilisation et de la réduction du jetable et de l'usage unique.
Dorothée Moisan, la crise sanitaire que nous traversons est l'occasion de redorer l'image du tout jetable, on vient de l'entendre, qui serait plus hygiénique. On a même pu lire dans une certaine lettre que les sacs plastiques sauvent des vies.
Oui, c'est vraiment aux États-Unis que c'est parti au tout début de la pandémie. Ils ont été très, très vite à réagir parce que dès le mois de février 2020, on a eu une étude qui a montré que le virus du Covid était plus résistant sur certains matériaux, notamment le plastique et l'acier, sur lesquels il pouvait rester jusqu'à 9 jours. Et là, l'industrie du plastique américaine a tout de suite commencé à se dire que ça pouvait lui être préjudiciable. Et du coup, l'industrie s'est précipitée pour sortir d'anciennes études à elle, financées par elle, bien sûr, où elle démontrait, d'une certaine manière, que les sacs en tissu étaient beaucoup plus dangereux que les sacs en plastique, parce que quand on prenait un sac en tissu dans un magasin, on contaminait tout le magasin et on contaminait aussi potentiellement le vendeur à la caisse qui remplissait votre sac. Mais ces études, très clairement, ne sont pas solides et ne tiennent pas en compte le fait que le plastique est plus contaminateur que les autres matériaux. Et donc, on est arrivé à quelque chose d'assez étonnant aux États-Unis. Même à New York, qui allait interdire les sacs plastiques fin mars ou fin avril, a tout à coup suspendu son interdiction de peur que des citoyens lui disent que peut-être que ce serait dangereux et que le Covid pouvait être disséminé. Mais peu à peu, si je peux vous rassurer ou rassurer les auditeurs de RFI, ces interdictions ont été remises en place ou sont revenues en vigueur. Les mensonges de l'industrie ont peu à peu été mis au jour.
Alors, en écoutant les médias plus largement, on a l'impression qu'il y a une mobilisation mondiale contre la production du plastique et contre la pollution qu'elle implique. Mais en fait, c'est un leurre parce que, comme vous le démontrez dans votre livre, les industriels, eux, misent sur une forte croissance du secteur, plus 4% par an, écrivez-vous. Donc, on n'est pas du tout en train de se déplastiquer, finalement.
En fait, moi, c'est ce qui a suscité l'écriture de ce livre. C'est qu'un jour, je suis tombée nez à nez avec ce chiffre, qui est de plus 3% pour les années à venir, entre 3 et 4%, pour l'augmentation de la production plastique chaque année dans les années qui viennent. Alors, du coup, j'ai pris ma calculatrice parce que je me disais 3%, ça fait quand même beaucoup quand on ajoute 3% chaque année. Et effectivement, si on ajoute 3% par an pendant 20 ans, on arrive à un doublement de la production. On est à des productions qui sont autour de 400 millions de tonnes chaque année de matière plastique dans le monde. Et on va arriver au double d'ici 20 ans et on arrivera vers 2050 à plus d'un milliard de tonnes de plastique produites chaque année et qui s'accumulent. Quand on commence à parler plastique, on tombe avec des chiffres extravagants. Et donc cette production, on a l'impression que, puisqu'on interdit notamment en Europe les pailles, les touillettes en plastique, etc., on se dit « oh bah ça y est, on va être sorti de l'auberge bientôt, les sacs en plastique, on en a de moins en moins ». Mais c'est tout un tout petit bout de la lorgnette. Déjà en Europe, peut-être qu'on va réduire un tout petit peu, mais c'est le monde entier qui consomme du plastique. Donc il y a vraiment un gros effort à faire.
Oui, alors c'est quoi? C'est la hausse du commerce en ligne, la hausse des repas emportés, l'augmentation de la classe moyenne dans de nombreux pays. Et puis, l'augmentation de la production de plastique, c'est aussi un effet pervers de la transition écologique.
Oui, alors on n'y pense pas beaucoup. Alors il y a tout ce que vous avez cité, effectivement, sur la consommation en ligne. Alors on voit beaucoup avec le Covid-19 les plats emportés aussi, tout simplement, qui se vendent un peu partout avec des emballages en plastique de partout. Et puis il y a toute la transition écologique dont vous parlez. Alors bien sûr, on est tous très concernés. Enfin, pas tous, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup sont très concernés. Et le plastique fait partie de cette transition écologique dans les pales d'éoliennes, par exemple, dans les panneaux photovoltaïques, dans les batteries électriques des voitures automobiles. Donc, le plastique aide à la transition écologique. Maintenant, il y a deux choses qui ne sont pas prises en compte quand on parle de ça. D'abord, donc, l'industrie va nous dire effectivement que c'est super parce que le plastique va sauver le climat. Le problème, c'est qu'elle ne parle jamais de la fin de vie du plastique quand elle parle de l'empreinte carbone du plastique. Le plastique ne s'arrête pas juste à cette seringue à l'hôpital ou à ce téléphone portable. Ce plastique, ensuite, en fin de vie, il va falloir ou le recycler, sachant qu'aujourd'hui, 9% des déchets plastiques ont été recyclés, ça veut dire que dans 91% des cas, ce n'est pas le cas. Soit va être recyclé, ce qui nécessite de l'énergie, soit va être incinéré, ce qui va donc susciter, bien sûr, quand on brûle du carbone, du CO2, que ce soit au niveau du pétrole ou au niveau du plastique, il va émettre la même quantité de gaz à effet de serre qu'il va rendre à l'atmosphère. Et le deuxième point qui est oublié par l'industrie quand elle en parle, les gens ne se rendent pas compte, mais le plastique, c'est du pétrole, c'est du gaz naturel, c'est du charbon quand il vient de Chine, parfois. Et donc, c'est énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Et si l'industrie prépare finalement la suite, le plastique est un petit peu sa planche de salut, parce que tout le monde sait que les voitures à essence, les voitures thermiques, ce sera fini dans quelques dizaines d'années. On estime qu'en 2050, l'essence, le pétrole qui sera investi dans les voitures en Europe et en Chine, finalement, va réduire au point que le plastique, lui, va dépasser la quantité de carburant.
Alors, quels sont les impacts de tout ce plastique en circulation? Nous en parlons juste après The Temptations, Plastic Man.
Jack of all trades and a master of none. Agrees with
Nous sommes en compagnie de la journaliste Dorothée Moisan qui vient de publier Les Plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent chez Kero. Alors pour comprendre l'impact de la production massive de plastique depuis 70 ans, je vous propose de monter à bord du voilier scientifique Tara. Actuellement, l'équipe de Tara est au Chili pour explorer les micro-organismes de l'océan. Mais en mars 2018, ils étaient à Hong Kong pour l'expédition Tara Pacifique qui a dressé un état des lieux des coraux de cet océan. Agathe Roulin faisait partie de l'équipage.
Le capitaine Samuel Audrin sort la tête du cockpit. À bâbord comme à tribord, des immeubles interminables. On a rangé les voiles et le bateau. Au moteur, glisse lentement sur Tatong Channel, le passage à l'est de Hong Kong. Après plusieurs jours sans voir la terre, les marins découvrent enfin le New York asiatique.
Il est bientôt midi, là on est en train d'arriver sur Hong Kong. On était en mer depuis 4 jours là et retour à la ville. Ouais, c'est un peu surprenant, tous ces immeubles, il y a une sacrée concentration au mètre carré ici.
Tara a passé ses amarres au quai numéro 9 sur l'île de Hong Kong. On est ici en plein cœur de la ville, dans le quartier des affaires. Pendant plus d'une semaine, les Hongkongais défileront sur le pont pour visiter la goélette et découvrir l'expédition Tara Pacifique. Tout autour du bateau, des buildings semblent faire la course pour toucher le ciel. Ville verticale de plus de 7 millions d'habitants, Hong Kong est entourée d'eau. Et malheureusement, ces déchets, notamment les plastiques, finissent trop souvent dans la mer et sur les plages. 10 minutes de taxi entre les buildings et puis soudain, changement de décor radical. La nature, une végétation luxuriante, généreuse, des montagnes ou des feuilles. En un instant, le vert des arbres a remplacé le gris de la ville. Et puis bientôt, du bleu, la mer, la plage de Sheko, au sud-est de l'île. C'est là que l'équipage de Tara retrouve une centaine de bénévoles venus débarrasser le sable et la mangrove de déchets en tout genre charriés par la marée. Il y a beaucoup d'expatriés, des Français essentiellement, puisque l'opération est organisée par la communauté française de Hong Kong.
Donc on prend tout, on met dans les sacs, on ramène tout ici et ici on trie.
Les sacs, vous pouvez utiliser ceux-là et c'est ceux dans lesquels on mettra les bouteilles plastiques à la fin de toute manière. Sinon, vous pouvez utiliser ça, mais vous les videz quoi qu'il arrive. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez.
Vous gardez les sacs poubelles, si vous pouvez, vous gardez les sacs poubelles quand on a fini le tri. Alors, vous utilisez au maximum ces sacs-là et vous ramenez tout ici.
Le capitaine de Tara, Samuel Audrin, a déjà rempli la moitié de son sac. À ses côtés, Paul, 9 ans.
Eh ouais, super, belle trouvaille. Tiens, moi j'ai trouvé une télé il n'y a pas longtemps. Ouais, une grosse télé comme ça. En mer, dans les Palaos. Une île où on est passé avec Tara, avec le bateau. Ouais, non, c'est hallucinant parce qu'on est arrivé ce matin vers 8h. On voyait du plastique, c'est sûr. Hein. Mais on voyait pas qu'il y en avait énormément. Et en fait, au bout de même pas une heure, hein, en fait, il y a un gros monticule énorme. Et il y a tout, des bidons, beaucoup de polystyrène. Et puis surtout, on se balade avec notre sac, mais on pourrait tous rester au même endroit. C'est dès qu'on soulève un caillou, on est partout. Et là, il y a des plongeurs là, qui sont en train de revenir. Pareil, ils sont chargés avec des bidons. Non, c'est impressionnant. De toute façon, l'action aujourd'hui, c'est pas... c'est de nettoyer, mais c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais c'est surtout de sensibiliser. Donc là, après, tout ce qu'on a récupéré, on fait un gros tas sur la plage, là, au milieu, sur une bâche. Et après, on divise par propriété les bouteilles, les pailles, les briquets, etc. Histoire de pouvoir, derrière, essayer de sensibiliser les jeunes générations, mais aussi les moins jeunes. Là, il y a un frigo qui arrive. Là.
En fin de matinée, les bouteilles en plastique entassées sur la plage partiront en camion pour être recyclées. Une évidence pour Julie Mehta, l'une des organisatrices de l'opération et doctorante en économie de l'environnement.
À Hong Kong, il n'y a pas encore de marché de la pollution. C'est pour ça que je travaille sur l'économie circulaire pour essayer de créer un marché des déchets, pour que les déchets ne soient plus considérés comme un déchet, mais comme une valeur de ressources, pour essayer que même dans ces mondes libéraux, les marchés et de la pollution et des déchets s'équilibrent.
Les gens sont souvent négatifs, surtout à Hong Kong, ils pensent qu'on ne peut pas recycler. C'est pas vrai, il y a des centres qui recyclent à Hong Kong le plastique et d'autres déchets. Donc c'est important que les scientifiques, les gens qui ont un poids important dans la vie publique et la vie politique, puissent être présents et puissent dire au public, c'est possible, on peut le faire tous ensemble, on a besoin de le faire tous ensemble, mais c'est possible, il ne faut pas être pessimiste vis-à-vis du problème des déchets, mais plutôt essayer de trouver des solutions tous ensemble.
Dorothée Moisan, toutes les plages du monde sont devenues, comme celle de Hong Kong, des poubelles de plastique.
Le plastique, on en voit beaucoup, effectivement, sur les plages. Mais ce qui est pervers dans ce qu'on voit sur ces plages, c'est qu'on oublie ce qui est dans les océans, dans les sols, les déchets de surface. Donc, ce qui sont les déchets de surface sur lesquels on compte, finalement, les déchets qui jonchent les plages. Ils sont comptés par les chercheurs quand on parle des déchets de surface. C'est moins de 1% du plastique qui est dans les océans. Alors, quand on parle du 7e continent, des gyres de plastique, ces grandes étendues de déchets qu'on trouve à certains endroits dans le Pacifique Nord, au large de l'Europe aussi, il y en a 5 grands dans le monde, mais il y en a plusieurs petits, au gré des courants et des vents, bien sûr. Donc, ceux-là, ils sont marquants parce que c'est rassemblé à un endroit précis. Et ce qui est rentré dans la colonne d'eau, ce qui navigue, qui se défait en microplastique qu'on ne voit plus et qui, par contre, va faire partie des océans. Les scientifiques, aujourd'hui, ne savent pas trop où vont ces 99%. Il y a des morceaux qui sont effectivement qui se dégradent, qui sont absorbés par le plancton, ce qui va poser un réel problème, notamment au niveau de la pompe à carbone que représentent les océans. Le plastique, peu à peu, modifie le comportement du plancton, son absorption du CO2. Et va gripper un petit peu la machine. Donc il y a un risque important qu'on est en train de découvrir petit à petit, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle, comme quoi le plastique peut avoir un effet sur, tout simplement, l'absorption du carbone par les océans. Et puis ensuite, ils imaginent qu'il y a sûrement des puits, ce qu'ils appellent des puits, sink en anglais, des puits quelque part où doivent s'accumuler ce plastique. Et je parlais à François Galgani, qui est le monsieur plastique français, que beaucoup connaissent, en Méditerranée. Il me disait, mais vous savez, il y en a beaucoup qui sont au fond de l'océan. Et en Méditerranée ou ailleurs, les sous-marins, ils savent quand ils atteignent le fond de l'océan, quand ils commencent à avoir du plastique. Voilà.
Et c'est pire sur Terre.
Alors c'est pire sur Terre, voilà, je suis désolée, je ne vais pas être une porteuse de très bonnes nouvelles dans votre émission, Anne-Cécile. Mais effectivement, sur Terre, ça a mis un peu moins de temps à saisir les consciences et puis les recherches des scientifiques, tout simplement parce qu'effectivement, les océans ont beaucoup marqué, à raison. Mais il ne faudrait pas oublier la Terre, puisque la Terre, aujourd'hui, une étude qui est sortie il y a quelques années, à très peu de temps, a montré que les sols, donc les sols agricoles notamment, mais les autres, étaient 4 à 23 fois plus pollués que les océans. Donc on arrive à des niveaux de pollution qui sont extrêmes. Alors les sources, elles sont multiples. Il y a à la fois, j'ai envie de vous dire tout simplement, même si ce n'est pas si simple que ça, mais finalement c'est des pluies de plastique. Puisque les microfibres de textile qui viennent de nos vêtements, des plastiques qui viennent de l'érosion, l'usure des pneus, tout ça, ça vole dans l'air et ça va se déposer sur les sols. Et la deuxième source, on parle beaucoup des engrais sur tout ce qui est pesticides, produits chimiques, etc. Mais très souvent, ces engrais, pour être plus efficaces et pour se disséminer plus doucement dans le sol, sont encapsulés dans des capsules de plastique, en fait. C'est des petites capsules de plastique qui vont peu à peu se dégrader et qui vont se transformer en microplastiques et quand ils seront encore plus petits, en nanoplastiques, donc des plastiques qui ne seront pas visibles à l'œil nu. Et peu à peu, ils vont coloniser les sols. Et on a une étude qui a été faite en Allemagne a montré que les vers de terre, dont on sait aujourd'hui que c'est quand même les meilleurs alliés ou les meilleurs associés des agriculteurs ou en tout cas de l'évolution des sols, ont un comportement qui change. Ils creusent différemment leur terrier. Ils se comportent différemment, ce qui pourrait avoir un impact important. Et de nouvelles études, encore une fois, je parle beaucoup d'études, mais les chercheurs, effectivement, sont en train de chercher là-dessus, ont vu que, on commençait à se dire, mais du coup, s'il y en a dans le sol, qu'est-ce qui se passe dans les plantes? Il va y avoir un effet. Et malheureusement, on a vu que les microplastiques ou ces nanoplastiques entraient dans le système racinaire et rentraient dans la plante qui avait un développement beaucoup plus difficile et avait parfois des fruits ou des feuilles beaucoup plus chétives.
Voilà, donc plastique dans l'océan, plastique dans les sols et plastique dans les airs. Vous l'évoquiez et j'avoue que j'étais un peu sidérée en lisant votre livre de voir l'impact des pneus, par exemple.
Pour vous donner un chiffre qui est assez marquant et qui vous donne une idée, dans le lac Léman, qui est donc en Suisse, hein, on ne pense pas tout de suite à la pollution quand on pense à la Suisse et au lac Léman, on estime que sur les 50 tonnes de déchets plastiques qui sont chaque année rejetés dans le lac Léman, il y a 60% qui viennent de l'usure des pneus. Des gens qui conduisent en moyenne en France 15 000 km par an, ce qui est assez courant sur une voiture de taille moyenne, on est sur à peu près 3 kg par an d'usure de pneus qui va être relâché dans la nature, tout simplement en roulant. 3 kilos, alors vous rajoutez à ces 3 kilos l'agrégation de la route, c'est-à-dire que la gomme va se mélanger au bitume et va former un petit agrégat, pas très sympathique, avec plein de métaux lourds, etc., de produits chimiques non identifiés, au point que aujourd'hui en Suisse, il y a une étude qui a été financée par les fabricants de pneus, ils sont plusieurs dizaines à participer à cette étude, pour essayer d'identifier ce qu'il y a vraiment dans ces pneus, et essayer d'identifier s'il y a un risque de toxicité pour l'homme, l'environnement, etc. Petite anecdote, puisqu'on parlait un petit peu de l'industrie et des lobbies tout à l'heure, quand j'ai appelé ces scientifiques pour savoir un petit peu comment se passait cette étude, ils m'ont dit « mais vous savez, pour l'instant, on en est déjà à identifier ce qu'il y a dans le pneu ». Je leur ai dit « mais c'est bizarre, parce que l'industrie vous paye quand même pour étudier le pneu, donc ils ont quand même dû vous donner la composition ». Ah ben non, secret des affaires. Donc, l'industrie paye, alors c'est un consortium d'industriels bien sûr, donc en fait, ils vont mettre un petit peu de pneus, de Firestone, de Bridgestone, de Michelin, etc. Bon bref, on met un peu de pneus de tout le monde parce qu'il ne faut pas donner le secret de chacun. On mélange tout ça et on le donne à un scientifique en disant « écoutez, dites-moi ce qu'il y a dedans ». Et ensuite, dites-nous si c'est dangereux. Donc, du coup, ces études sont en cours. Et très sincèrement, il y a de fortes probabilités qu'on découvre des choses assez toxiques dans ces émissions.
Alors, on parle des pneus, on parle des bidons, on parle de... Enfin, le plastique, si on en utilise tant, il faut quand même le dire, c'est parce que c'est pratique. On le voit notamment, vous consacrez tout un chapitre à l'hôpital. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a des vies qu'on ne sauverait pas si on n'avait pas le plastique aujourd'hui.
Le plastique, c'est très pratique. On en a partout aujourd'hui, quand vous me parlez, quand on travaille aujourd'hui à la radio, quand on travaille dans les médias, quand on se déplace, on en utilise partout et à tout moment. Et c'est bien pour ça que c'est une catastrophe aujourd'hui. Mais il y a bien sûr des endroits où on ne pourra pas s'en passer. On parle effectivement de l'hôpital, on parle de certaines technologies qui seront impossibles sans plastique. À l'hôpital, c'est vrai que c'est très marquant. J'en ai parlé à plusieurs personnes, notamment au père d'un enfant qui avait été prématuré et qui avait été entouré de tuyaux de perfusion pendant des mois. Et ce père, qui en l'occurrence est un biologiste américain très connu qui travaille sur les perturbateurs endocriniens, me disait « mais écoutez, moi je ne sais plus que penser finalement, que c'est très difficile, il faut que j'accepte, que j'assume le fait que ce plastique dont je sais qu'il intoxique ma petite fille, est aussi ce plastique qui la sauve. Le problème, c'est que ce plastique, notamment les poches en PVC dont on parle pour ces services de néonatologie, sont en PVC. Le PVC qui est, si on avait à choisir le plastique le plus méchant, il y a de fortes chances que tout le monde choisisse le PVC. Le PVC, à l'origine, quand on forme du PVC, il est dur. Pour le rendre souple, comme il est beaucoup à l'hôpital, il faut mettre des phtalates. Les phtalates, ce sont des additifs. Or, ces additifs, on peut en avoir jusqu'à 80%. Or, ces phtalates sont des perturbateurs endocriniens aujourd'hui démontrés qui créent des problèmes d'obésité, de diabète, de certains cancers du sein, des testicules. Et ça a un effet extrêmement important sur des enfants qui sont ou malades ou prématurés, qui sont donc très vulnérables et qui, dès leur naissance, sont exposés à des quantités phénoménales. Il a été démontré qu'il y avait un lien direct entre la quantité de phtalates présente dans l'organisme d'un bébé et son exposition juste avant la quantité de perfusion qu'il avait autour de lui pendant cette période.
Sympathique, sympathique. Alors, que faire de toute cette pollution? Comment est-ce qu'on peut l'enrayer? On en parle après les Cure qui chantent eux aussi notre passion pour le plastique, Plastic Passion.
Plastic passion, it's a mud to rim.
Plastic Patient The Cure dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Nous sommes en compagnie de la journaliste Dorothée Moisan qui vient de publier Les Plastiqueurs, enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent chez Kero. 450 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, soit l'équivalent en poids de la population humaine, écrivez-vous, c'est un peu flippant.
Oui, j'ai fait un petit calcul, effectivement, et j'en suis arrivée là, oui.
Alors, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète ? Parce que vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, mais le plastique, il est recyclé en grande partie, non ?
La grosse difficulté, elle est là. Et d'ailleurs, il y a une campagne dernièrement toute récente du syndicat professionnel des plasturgistes français qui s'appelle Polivia, qui a lancé une campagne il y a à peu près 3 semaines de ça, à nouveau sur le plastique, avec cette petite phrase que j'ai notée d'ailleurs, « Le plastique se recycle maintenant à l'infini ». Et que je trouve mensongère. Qu'on dise que le plastique soit indispensable à l'hôpital, etc., qu'on en parle, il y a des choses qui peuvent tout à fait se discuter. Le plastique, aujourd'hui, n'est pas recyclable à l'infini. Ça, il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Déjà, il y a effectivement ces chiffres que j'évoquais au tout début. On est à peu près aujourd'hui à 7 milliards. Et quand je vous dis 7 milliards, vu que ça change et ça monte à un niveau tel chaque jour, le 7 milliards, je pense qu'on est déjà vraiment passé. On est autour de 7 milliards de déchets plastiques qui ont été produits dans l'environnement depuis l'avènement du plastique, on va dire, et de la société de consommation dans les années 50. 7 milliards, là-dessus, 9% ont été recyclés. Recyclés. Alors, recyclés, ça ne veut pas dire une bouteille d'eau qui redonne une bouteille d'eau ou un pot de yaourt qui redonne un pot de yaourt. Ça veut dire que du plastique a été mixé en petits morceaux, a été fondu et a redonné, par exemple, des tuyaux, a donné... Alors, on parle beaucoup de bancs de jardin. Alors, moi, à chaque fois qu'on me dit « Ah, mais vous savez, ça se recycle en bancs de jardin. » Alors, je pense que dans les années qui viennent, on va avoir un problème de surproduction de bancs de jardin parce que, sincèrement, tout se recycle en bancs de jardin.
Mais est-ce qu'on ne recycle quand même pas de plus en plus ?
Alors, on essaie de recycler de plus en plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des, pour vous donner des chiffres, le recyclage, c'est surtout quelque chose. Donc, on l'a développé dès que le plastique est arrivé dans les années 70, enfin, pas tout de suite après, mais un petit peu après, on a commencé à développer le recyclage. Dans les années 80, aux États-Unis notamment, le plastique est devenu vraiment l'ennemi. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est récent. Non, ça fait 50 ans, 40 ou 50 ans que des écologistes, des environnementalistes alertent sur les dangers du plastique. On alertait surtout à l'époque sur la dangerosité et sur la pollution visuelle, etc., sur l'amoncellement de déchets dans les décharges, c'était impressionnant. Et donc, du coup, l'industrie s'est dit, oh là là, notre produit est de plus en plus vilipendé. Il faut qu'on fasse quelque chose, sinon on va acheter moins de plastique. Donc, mais le recyclage, c'est pas si mal. Si on fait croire aux gens que tout se recycle, leurs préoccupations pour l'environnement vont être beaucoup plus faibles, donc ils vont continuer à acheter nos produits. Ça a été écrit par l'industrie, ça a été dans un documentaire qui est sorti récemment aux États-Unis. Des anciens responsables de ces syndicats professionnels ont reconnu cette stratégie. Et donc, le recyclage est poussé par l'industrie avec des centaines de millions d'euros. Donc, c'est quand même énorme. Pour vous donner un chiffre, dans les années 90 aux États-Unis, 5% du plastique était recyclé. Aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans plus tard, on est à 7%. Donc, 30 ans, des millions d'euros d'investis pour dire que le recyclage, c'est super, ça avance, 2% de plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'avance pas sur le recyclage, mais principalement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il y a deux plastiques qui se recyclent plutôt bien, c'est-à-dire le PET. Le PET, c'est le polyéthylène terephthalate, c'est celui des bouteilles d'eau, en gros, on va vous dire. Et puis le polyéthylène haute densité, ou PEHD, le numéro 2, si vous regardez les petits numéros sous les emballages, c'est celui des flacons de shampoing, des flacons de détergent, etc., ces bouteilles opaques. Ces deux-là, on arrive à peu près à les recycler, et puis à en faire le flacon de shampoing pour éventuellement redevenir un flacon de shampoing. Maintenant, tous les autres sont très difficilement recyclables et en tout cas ne sont pas recyclables pour donner le même objet, notamment au contact alimentaire, parce qu'on parle beaucoup d'emballage à usage unique. Et donc, ça veut dire qu'on parle de notre pot de yaourt, qu'on parle de cet emballage qui emballe la viande, ou etc., etc. Ces emballages-là, aujourd'hui, il y a énormément d'additifs et de produits chimiques dans ces emballages, ne sont pas retestés derrière et ne peuvent pas être utilisés après recyclage dans le contact alimentaire. On peut le réutiliser, on estime, une fois pour les bouteilles d'eau, par exemple.
Voilà, donc la règle, c'est essayer d'utiliser le moins de plastique possible et d'acheter le moins de plastique possible. Et dans les pays qui n'ont pas les moyens de l'hypocrisie du recyclage, eh bien, le plastique se retrouve dans la rue. C'est le cas à Lomé, au Togo. Alors, face à ce constat, il y a des initiatives courageuses comme Zamke, une petite entreprise qui récupère les sachets Pure Water. Vous savez, c'est ces petits sachets qui contiennent de l'eau et qui sont vendus dans tous les pays du Sud. Aimé Abra, tenu Lawani, a décidé de s'y attaquer. Alice Milo est allée la rencontrer.
Là, on rentre dans l'atelier Zamke d'Agoué. Bonjour les filles. Ça va? Donc il y a Abra, Azmin, Nadej. Et aujourd'hui, visiblement, elles sont en train de faire des porte-monnaie moyens. Vous voyez là, ça c'est des paquets de sachets. Et donc les couturières, donc voilà, il y a Nadej qui est en train de dessiner son porte-monnaie moyen. Et donc elle va préparer comme ça ses patrons, ses assemblages. Les sachets sont assez solides pour pouvoir passer facilement sous les aiguilles d'une machine à coudre. Et ça va vraiment vite, hein. Ça permet de faire... Là on est autour de 300 articles, petits articles à la journée, quoi. Vous avez un sac de course, un petit sac de course. Et puis aussi l'avantage c'est que la matière étant du plastique, ben, quand il pleut, vos produits sont protégés de la pluie, quoi.
C'est imperméable. Comment vous avez eu cette idée de transformer ces sacs plastiques en accessoires?
Alors, le constat de départ est simple. On dit que, d'après les derniers recensements, il y a 2 millions de personnes qui habitent entre Lomé et Grand Quartier agglomération. Et on sait que les sachets Piorata, donc c'est une poche d'eau de 500 ml, hein, qui contient 500 ml d'eau, que les Togolais consomment beaucoup.
C'est une petite gourde jetable, en fait.
Exactement, malheureusement. Et donc, le constat vient que ces 2 millions de personnes consomment au moins un sachet de Piorata par jour. Et ça veut dire qu'il y a 2 millions de sachets qui traînent par terre tous les jours que Dieu fait. Et malheureusement, comme il n'y a pas encore de système de gestion de traitement de ces déchets, dans tout cas tous les quartiers et dont ce quartier de Lomé, il n'y a pas de décharge. C'est grave parce que ça bouche tous les caniveaux, quoi. Ça rend imperméable les sols quand il pleut. Il y a des problèmes d'inondation, hein, pas possible. Et puis quand l'eau stagne, et ben c'est les moustiques, c'est tout ce qui est terrible pour la santé. Et après, tous nos animaux les mangent, hein, ils les avalent, ils sont étouffés, hein. On a trouvé une solution, en tout cas au sachet Piorata, parce que c'est les seuls qu'on peut coudre à la machine pour aller plus vite, c'est de les recycler, de les transformer en objets, articles pratiques, utilisables au quotidien, sacs, accessoires, des sacs à dos pour les élèves, des trousses, des parapluies, des sacs de voyage. Maintenant, on innove, on fait énormément de choses parce que les matières, là, sont tellement résistantes. Vous savez que ces sachets, les scientifiques disent qu'ils font plus de 400 ans pour être dégradé, détérioré, et donc voilà, on profite justement de cette solidité de la matière pour faire des objets durables pour les clients.
Pour collecter les sachets d'eau minérale à travers la ville, les participants du projet Zamke ont placé des poubelles spéciales à des endroits clés, tels que les places des marchés. Certains citoyens, séduits par le projet, ont pris sur eux de faire le tri dans leur propre maison. Quand leur stock de sachets est important, ils appellent l'association pour qu'elle vienne les récupérer. Mais les principaux contributeurs de la collecte, ce sont les écoles qui ont monté des clubs environnement.
Donc voilà, les autres si de pro vous laissent pour rentrer à la maison. Je parlais du sport demain matin. Soyez à l'heure, ne soyez pas en retard pour les années sport.
Nous nous trouvons dans la cour de l'établissement, le CEG Nyekonakpo de Lomé, au Togo. Donc les 18 classes ont chacune une poubelle. Nous avons 4 poubelles dans la cour. Nous avons 2 petites poubelles dans chaque bureau. Et encore une poubelle dans la salle des profs.
On va voir les poubelles alors?
Oui. Il est midi là, il faut rentrer.
Voilà, nous avons une poubelle ici, dans la classe. C'est une poubelle dans laquelle nous nous mettons uniquement des sachets Pure Water.
Ah oui, effectivement.
Voyez, avec un tri bien fait, il n'y a pas d'autres sachets. Donc quand l'association Stage Togo vient, Zamke vient, l'association ne sera pas obligée de trier. Ils ramassent juste et puis ils s'en vont parce que les élèves et les enseignants ont déjà participé au tri au sein de l'établissement.
Arrête.
Ce projet, franchement, nous aide à garder la cour propre, comme vous pouvez le constater. Avant, ce n'était pas le cas. Et quand il pleut chez nous ici, vous voyez, l'eau stagne. Parce qu'il n'y avait pas de système de ramassage et nous n'étions pas informés qu'il y avait Zamke qui recyclait les sachets Piorata. Donc dans l'ignorance, nous on brûlait tout. Mais une fois qu'on les a rencontrés, on s'est dit, ah tiens, on peut travailler ensemble. Et là, on est arrivé au tri vraiment. Et les élèves sont dedans à fond. Ils arrivent à trier, ils mettent les sachets pierre-retard de côté. Et là, vous allez voir toute la beauté que nous avons ici. C'est nickel, quoi.
Oui, quand on nettoie, c'est nickel, quoi. Alors malheureusement, Zamke est en difficulté en ce moment, faute de clients. Alors si vous voulez les aider, contactez-nous et nous vous mettrons en lien avec leur formidable équipe hyper dynamique. Dorothée Moisin, le continent africain a intérêt à se protéger parce qu'il est dans la ligne de mire des plastiqueurs.
Oui, la ligne de mire des plastiqueurs. Juste avant de répondre à cette question, je voulais réagir à votre reportage sur ce que disait votre première interlocutrice sur les caniveaux qui éventuellement étaient bloqués par les sacs plastiques. C'est quelque chose qui, dans les systèmes européens occidentaux, et on ne pense pas à ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui est très marquant. En Asie, ils ont été confrontés au même problème, donc avec les sacs plastiques notamment, qui déjà, il y a 20-30 ans, ont bloqué les systèmes de canalisation. Et donc, au Bangladesh notamment, en 2002, qui a été le premier pays au monde à interdire les sacs plastiques, pourquoi est-ce qu'ils les ont interdits? Parce qu'il y a eu des milliers de morts lors des inondations qui étaient aggravées par tout ce plastique qui bouchait les évacuations d'eau. Et donc, ils ont en 2002 interdit ça, ce qui a effectivement permis d'améliorer un petit peu la situation. Et je vois qu'en Afrique aujourd'hui, on est en train d'être confronté au même type de problème qui est en train de peu à peu grignoter les systèmes des collectivités et de poser de réels problèmes. Donc ça, c'est vraiment important de réagir à ça parce qu'ils peuvent être confrontés aux mêmes difficultés. Sur ce que vous disiez sur le fait que effectivement l'Afrique, c'est un petit peu, pour ceux que j'appelle les plastiqueurs, c'est un petit peu le nouveau terrain de chasse. Aujourd'hui, on sait que l'Asie elle-même produit énormément de plastique. La Chine, mais de manière générale l'Asie, produit aujourd'hui plus de 50% du plastique mondial. Donc gros producteur de plastique, gros consommateur de plastique. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, parce qu'on parlait dans le reportage aussi avant de Tara qui parlait de toute la pollution à Hong Kong, etc. On a l'impression que toute la pollution vient de Chine, d'Asie, d'Indonésie, des Philippines, etc., comme le montrait un rapport en 2015 financé par Coca-Cola et les lobbies américains et aussi Dow Chemical qui produit du plastique. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les États-Unis, c'est 4% de la population mondiale et c'est 17% des déchets plastiques mondiaux. Il faut rappeler ce genre d'évidence pour qu'on comprenne que c'est pas seulement... Certes, on voit ce plastique et ces petites poches de plastique, de poches à eau, admettons, là, à Lomé, où on a fait le reportage, mais c'est finalement qu'une toute petite partie de cette pollution. Et aujourd'hui, les États-Unis qui ont besoin de vendre leur plastique, bien sûr, et aussi d'évacuer leurs déchets, parce que vu qu'ils produisent beaucoup de déchets, ils ont aussi besoin de les évacuer. Et l'Asie ayant un petit peu fermé ses portes, la Chine notamment, qui en 2018 a dit « Moi, j'en ai un peu marre d'accueillir tous les déchets plastiques du monde », ils ont quand même accueilli 50% des déchets plastiques du monde pendant une trentaine d'années, ce qui est quand même énorme. Ils ont dit, moi j'en ai marre des plastiques qu'ils appelaient contaminés, c'est-à-dire où il n'y a pas que du recyclable dans les balles de plastique, donc j'arrête de les recevoir. Le monde occidental a complètement été perturbé par cette nouvelle qu'il n'avait pas du tout anticipée. Et aujourd'hui, l'Amérique fait un petit peu les yeux doux à l'Afrique. Et on l'a vu récemment, je crois que vous en aviez parlé dans vos émissions sur le Kenya. Les industriels du plastique américain sont en train d'influencer le gouvernement américain qui est en train de négocier un accord commercial bilatéral avec le Kenya pour essayer de glisser une petite phrase où la production de plastique à usage unique américaine et puis aussi les déchets américains pourraient peut-être trouver un débouché au Kenya qui serait le point d'entrée pour rentrer en Afrique. C'est quand même très choquant, mais ce qui risque peut-être de se faire.
Oui, il faut être vigilant sur ce point. Alors, la solution à grande échelle, on l'a bien compris, doit être politique. Alors, en Afrique, 34 pays quand même sur 54 ont légiféré sur le plastique. Encore faut-il que ces lois soient appliquées. Au Sénégal, par exemple, il y a une loi depuis 2015, mais qui n'a pas été suivie de beaucoup d'effets. Du coup, une autre loi a été adoptée par le Parlement en janvier 2020. Une loi relative, je cite, à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Le but, eh bien, c'est d'obtenir l'interdiction des gobelets, des couvercles, des pipettes et tous les sachets. Mais cette fois, les associations se mobilisent pour que les décrets d'application soient ambitieux, comme nous l'explique Ibrahima Cissé. Il est responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique.
Pour que cette loi soit vraiment efficace, ce qui a manqué sur la première loi, on a salué le courage quand même de l'État du Sénégal, faire une loi au bout de 5 ans, reprendre la loi. On se rend compte que cette première loi n'avait pas marché. Parce que le champ d'action était très faible. On avait ciblé les plastiques à faible micronage, moins de 30 microns. Et cela a été contourné rapidement par les industriels. Il y avait en tout cas beaucoup de lacunes. Maintenant, cette nouvelle loi de 2020 a essayé d'intégrer ces aspects-là. Cependant, il y a encore à faire pour s'assurer de l'effectivité parce que certains articles de cette loi sont assez contraignants et la mise en place pour des décrets d'application de cette loi-là vont nécessiter vraiment une approche beaucoup plus inclusive.
Vous dites que, par exemple, il faut faire participer évidemment les personnes concernées, comme les commerçants, comme les industriels.
Oui, parce que cette loi, elle est assez transversale. Elle concerne les industriels, les commerçants, les consommateurs, l'État. Donc, il est important, dès le départ, pour une bonne compréhension de cette loi, et même quand il s'agira de la faire appliquer, d'intégrer au tout début les différents acteurs qui sont concernés. C'est pour ça que les commerçants, les consommateurs doivent intégrer ce groupe de travail pour réellement tenir compte de la faisabilité. Parce que quand on parle, par exemple, de la collecte des déchets plastiques dans les conteneurs, cette disposition est certes bien si on l'envisage du côté de la législation, mais du côté de sa mise en place pratique, va nécessiter une mise en place de conteneurs, des espaces pour cela, etc. Donc c'est ça qui fait qu'il est important qu'avant de mettre en place des décrets d'application, d'inviter les commerçants, les producteurs, les consommateurs, pour que les gens, en tout cas les populations, comprennent bien cette loi avant de juste prendre des décisions qui, dans les réalités, auront du mal à être appliquées.
Puis il faut impliquer les producteurs et les importateurs de plastique au Sénégal.
Tout à fait, il faut les impliquer. Les discussions sont allées aussi dans le sens de les aviser et de les informer pour qu'ils s'orientent maintenant sur des emballages dégradables. Et cela va nécessiter quand même leur compréhension et leur acceptation de la loi. On sait que la loi va s'appliquer de toute manière, mais il est beaucoup plus facile pour l'autorité compétente de veiller à son application quand au préalable il aura travaillé avec les concernés, les importateurs, les producteurs et même les producteurs locaux qui, dans une certaine mesure, auront l'obligation de récupérer des emballages plastiques, de commencer à intégrer dans leur production, dans la matière première plastique, une matière première biodégradable qui fera que peut-être le produit qu'ils vont faire sera dégradable, etc., etc.
Et puis, il faut traduire, ça peut sembler tout bête, mais c'est essentiel, la loi en langue locale pour que tout le monde la comprenne et puisse l'appliquer.
Tout à fait. Il y a tout un travail à faire pour la vulgarisation. Donc, nous pensons qu'il faut tout un programme de vulgarisation avec les réseaux sociaux, les médias, avec les lois traduites en Wolof, avec une approche très simple où les communautés, les leaders politiques, les leaders religieux, coutumières, etc. sont intégrés et ils peuvent transférer le message. Et il faut derrière tout cela qu'il y ait un travail pour qu'il y ait un changement de comportement chez les consommateurs, chez les populations, pour que ce réflexe de demander un sachet plastique soit changé et qu'ils aillent à la boutique avec leur panier et comme cela se faisait pour pouvoir éviter d'être servis dans des sachets plastiques.
Oui, surtout qu'avec l'émergence de la classe moyenne en Afrique, on sait que plus on a d'argent, plus on consomme et donc plus on consomme de plastique. Or, le continent africain, pour l'instant, était assez préservé, même s'il y a la pollution qui arrive par l'océan des autres pays. Mais en termes de consommation, il y avait assez peu de consommation de plastique et on voit que ça augmente. Donc, il est urgent d'éviter de faire comme dans les pays occidentaux, finalement.
Tout à fait, hein, ça augmente drastiquement. Entre 2015 et 2020, on a eu 20% d'augmentation au Sénégal, alors que le taux mondial, c'était à 7%. Vous voyez, on peut donc, ça augmente très, très, très rapidement. Et tout le monde est d'accord sur son impact négatif sur le bétail, sur la nappe phréatique, les égouts sont bouchés. Donc, les conséquences sont connues, hein. Les gens sont d'accord dans l'ensemble. Maintenant, le changement de comportement, le changement d'habitude de cet usage va demander quand même de mettre en place des projets, des accompagnements pour les consommateurs, des sensibilisations, etc., pour aller vers un changement total de comportement.
Dorothée Moisan, comment est-ce que vous réagissez à ces propos d'Ibrahima Cissé ?
Moi, vraiment, je salue ce qui se passe en Afrique sur le plastique parce qu'ils sont vraiment pionniers sur cette problématique. Quand on parle de l'Europe avec tout ce qu'elle fait sur le plastique, etc., mais l'Europe a interdit les sacs plastiques en 2015. Le Rwanda a été pionnier en 2008, a fait ce qui se passe ici au Sénégal, ce qu'ils ont commencé à faire au Rwanda. Et alors, en plus, que ce que disait effectivement votre interlocuteur au Rwanda, au Sénégal, on a dû effectivement faire une deuxième loi parce que la première ne fonctionnait pas. Il faut avoir le courage de faire ça. Attendez, imaginez en Europe avant qu'on reconnaisse que la première loi soit pas suffisante, ça va prendre prendre un peu plus de temps. Donc, ce qui se passe dans certains pays d'Afrique, 34 sur 54, on est à 2/3 des pays africains aujourd'hui qui ont interdit les sacs plastiques ou plastiques à usage unique. Donc, c'est extrêmement ambitieux et je pense qu'ils se rendent compte que c'est un problème qui les menace vraiment. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un, donc, sur le continent africain, consomme 20 fois moins de plastique qu'un Nord-Américain, c'est-à-dire Canada et États-Unis. C'est une différence qui est quand même encore phénoménale. Et ils peuvent encore agir aujourd'hui. Il faut intervenir dès maintenant, faire comprendre aux consommateurs, aux citoyens, qu'il y a d'autres options. Que les feuilles de bananier pour emballer tel ou tel produit dans la rue sont aussi efficaces, et elles sont biodégradables effectivement, qu'une barquette en plastique qu'on va jeter juste après utilisation. Donc il y a vraiment des choses qui doivent se mettre en place et qui se mettent en place aujourd'hui qui sont vraiment, je trouve, extrêmement ambitieuses et intéressantes. Je pense aussi qu'il faut faire aussi très attention parce qu'on voit ce qu'on dit aujourd'hui sur la consigne. On parle en Europe, aux États-Unis, éventuellement de revenir à la consigne. Je parle des bouteilles notamment et de revenir au verre à la consigne en bouteille. Coca-Cola connaît très bien la consigne. Ça a été l'inventeur de la consigne en gros pour ses bouteilles Coca-Cola. Sauf qu'en Afrique et en Asie, c'est tout l'inverse. Coca-Cola est encore arc-bouté contre la consigne. Au Kenya, le ministre de l'Environnement, il y a quelques mois, c'était à l'automne 2020, a clairement tapé du poing sur la table en disant, enfin, excusez-moi, je ne vais pas être trivial, mais vous nous ennuyez, si vous continuez à nous bloquer, nous, on va vous imposer l'interdiction de vos bouteilles en plastique. Donc là, il faut que les gouvernants africains soient aussi stricts et aussi durs que ça. On va voir s'ils tiennent la route. Et je pensais aussi à la difficulté en Afrique. J'ai interviewé des gens en Tanzanie, qui est aussi très concerné par la problématique de la pollution plastique, et où on fait de plus en plus ce qu'on appelle de brand audits, c'est-à-dire de nettoyage de plages pour identifier les marques qui sont présentes sur les plages. Sans surprise, chaque année dans le monde, les trois en haut du podium, c'est donc Coca-Cola, PepsiCo et Nestlé. Et cette dame me disait, mais vous savez, on ramasse ce qu'il y a sur la plage, on part le soir à 6h, et quand on revient le lendemain matin à 6h du matin, on peut collecter 100 sacs de 100 kilos sur les plages. Donc c'est sans cesse, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Donc 2/3 de ces déchets sont du plastique, et 40% de ces déchets qu'ils ramassent sont produits par deux compagnies de Tanzanie. Et ces deux compagnies de Tanzanie, elles sont possédées par les plus riches du pays. C'est très difficile de lutter contre ces personnes-là et de changer les mentalités et changer la société et changer les profits aussi, changer la façon de percevoir les profits. Donc il y a énormément de choses à faire, mais il y a des chemins inverses, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Le tout est d'essayer de se recadrer et de vraiment de prendre des décisions importantes qui vont engager l'avenir du plastique, des nappes phréatiques, des sols, des égouts, de tout ce qu'on a cité dans vos reportages qui sont extrêmement importantes.
Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Dorothée Moisan d'être passée dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, Les plastiqueurs enquêtent sur ces industriels qui nous empoisonnent. C'est publié chez Kero. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même planète, même heure.
Ce dimanche sur RFI.